Bonsoir à tous. C'est un exercice assez difficile que de voir animer une rencontre avec quelqu'un qui est connu universellement pour être un des grands animateurs de rencontres. En tout cas, chez Mola, ça fait quelques années qu'il s'occupe de nos grands auteurs. Et donc, c'est à moi ce soir qu'échoit le difficile combat à mener avec Jean-Marie Plane, que je suis ravi d'accueillir ce soir. Voilà, donc ce soir, c'est lui la vedette et c'est à lui qu'on va poser des questions. Mais comme vous pouvez l'imaginer, avec les gens qui ont l'habitude d'animer des débats et des rencontres, ils sont très, très difficiles à interroger. J'en ai fait l'expérience. Donc, je vais demander à la salle de m'aider à le pousser dans ses retranchements. Et quand il ne répond que par oui et par non, à pousser des cris d'indignation pour m'aider. Voilà. Donc, je suis ravi d'accueillir Jean-Marie. Je suis très fier de cet exercice auquel nous étions livrés il y a quelques années pour la présentation du livre « L'élève Gilles » d'André Lafont. Eh bien, à nouveau, c'est pour une préface que nous recevons Jean-Marie Plane, en attendant, bien entendu, la sortie de son grand œuvre, qui ne saurait tarder.
Dans la Pléiade.
Le problème de Jean-Marie, c'est qu'il a choisi directement les œuvres complètes, ce qui pose un tas de problèmes. Enfin bon. Je vais l'interroger autour de sa dernière publication, en quelque sorte, qui est la préface, la réédition de la préface qu'il avait écrite pour le livre de Jean Bal, qui s'appelle « La maison au bord du fleuve », sous-titré « Souvenirs bordelais », et qui est réédité par la glorieuse maison Le Festin, qui a déjà pu compter sur le travail de Jean-Marie Plane. Alors, qui est Jean-Marie Plane? On est tenté de le présenter, même si tout le monde le connaît à Bordeaux. C'est une sorte de figure de la vie littéraire et culturelle bordelaise. Donc, je ne vais pas ici en faire son panégyrique. Je vais juste rappeler qu'il a quand même présidé le Salon du Livre de 87 à 2001, je pense à l'époque où c'était un des plus grands salons du livre de France. C'est un homme de médias aussi, puisqu'il m'est arrivé de tomber sur l'INA sur des vidéos de ses documentaires lorsqu'il avait une émission de télévision. Il en a même eu deux, hein, je crois qu'une s'appelait L'Aquitaine à livre ouvert et une autre qui s'appelait Point Virgule, un petit clin d'œil à apostrophe. Des émissions qui désormais sont rentrées dans le patrimoine, puisqu'on peut les trouver donc, sur le site de l'INA. Et des émissions où on peut découvrir déjà à quel point Jean-Marie Plane était à l'aise devant un micro. Sous des lumières et devant des caméras. Il est aussi auteur, c'est un auteur rare qui se fait désirer. Les éditeurs qui ont signé des contrats avec lui le soulignent assez souvent. On lui doit Une ville bâtie en l'air, qui est un recueil de textes sur Bordeaux. Tsanga Tsanga, qui est alors plus voyageur puisqu'il nous a emmenés à Madagascar. Une chanson qui nous ressemble, qui nous rappelle que Jean-Marie Plane est quelqu'un qui fredonne beaucoup dans sa salle de bain des chansons de toute la grande variété française, et notamment de Marie Laforêt. Nous n'aurons pas l'occasion de parler de Marie Laforêt aujourd'hui, donc c'était l'occasion jamais de citer son nom.
Quel dommage.
Mais un jour, nous aurons peut-être droit à un grand livre sur Marie Laforêt, celui que Jean-Marie médite depuis longtemps. Et puis un livre absolument magnifique, que je conseille ardemment à tout le monde avant qu'il n'y en ait plus, qui s'appelle « Reste avec nous car le soir tombe », édité par la Maison Mola, et qui est un livre absolument splendide, paru il y a presque 10 ans maintenant, à la Maison Mola. Voilà. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de l'œuvre de Jean-Marie Plane, mais de son travail de préfacier, et parler aussi, surtout, d'une personnalité du monde des lettres bordelais, du patrimoine littéraire bordelais, qui est l'étonnante Jean Bald. Voilà. Alors, Jean Bald, c'est un personnage que beaucoup de gens connaissent. Il y a une rue Jean Bald, je crois, à Bordeaux, assez terrible, que personne ne connaît, parce qu'on n'a aucune raison d'y aller.
Oui, moi non plus.
Voilà.
Où est-elle?
Elle est du côté d'Arlac. Voilà, il y a des clapiers, c'est une maison assez incroyable. Non, alors c'est juste derrière l'hôpital. Quelques personnes se souviennent encore de Jean Bal, et il faut une maison comme Le Festin pour nous rappeler que c'est un écrivain qui mérite encore d'être lu. Alors, ce qui nous réunit donc, c'est ce texte. Ce qui nous réunit aussi, et curieusement, c'est aussi une filiation, puisque Jean-Marie Plane, moi je me souviens quand j'étais lycéen, avec celui qui deviendrait le patron du Festin. Nous allions assister. Alors c'était les mardis ou les jeudis.
Qui est le patron du Festin?
Xavier Rosan, que je ne cite pas parce que on le connaît. Nous allions en lycéen parce que notre professeur de lettres nous l'avait ardemment conseillé, assister aux rencontres, aux nouvelles conférences de Bordeaux animées par Jean-Marie Plane et qui recevait alors tous les grands noms des lettres et des arts à cette époque-là. Et je me souviens d'une formule qui était restée gravée dans notre tête et que nous échangeions après pendant très longtemps, qui était le jour où Jean-Marie Plane avait reçu René Huyghe. Après une magnifique présentation, il avait terminé en disant « Eh bien, l'enchanté fait place à l'enchanteur. Donc ce soir, je serai l'enchanté et nous espérons que Jean-Marie sera notre enchanteur. » Voilà. Alors, j'évoque ces jeudis littéraires et ces mardis littéraires pour une raison assez simple, qui est que vous étiez en quelque sorte l'héritier de votre père, qui lui-même avait animé pendant très longtemps des moments littéraires qui ont marqué leur époque. Et Georges Plane, donc votre père, qui était un personnage très éminent des lettres bordelaises, a lui-même connu tout le monde, et notamment Jean Balde, puisqu'il a témoigné de son amitié et de son intérêt pour Jean Balde. Alors, j'avais envie, pour commencer, de demander quelque chose d'assez rare, que Jean-Marie ne fait pas souvent, mais que Jean-Marie nous lise un texte de son père, de son propre père, Georges Plane, un texte qui a été repris dans un livre. Alors, j'ai l'édition originale, je ne suis pas très commerçant aujourd'hui à amener la nouvelle édition, éditée par Le Festin, qui s'appelle « Sur une génération perdue », qui est un livre qui reprend, c'est une anthologie de présentation des grands auteurs bordelais disparus à la guerre. Jean Balde n'a pas fait la guerre, bien malgré son prénom, Jean, mais elle a droit à sa présence dans ce livre. Et Georges Plane, donc vous allez nous expliquer dans quelles circonstances ça s'est fait, a écrit un texte pour parler de son ami Jeanne Allemand, dit Jean Balde. Voilà. Alors parlez-nous un peu de votre père, de son rapport à Jean Balde et en quelles circonstances il a écrit ce texte.
Alors, d'abord, je vous remercie, David, pour tout ce que vous avez dit. Il me semble qu'il y avait des choses plutôt aimables dans l'ensemble. On ne va pas revenir sur qui est Jean-Marie Plane. Apparemment, vous le savez beaucoup mieux que moi, je ne le sais. Bon, quelquefois, je me demande. Et ben, vous avez des fiches, vous savez très bien. Et donc, c'était très gentil. Et merci beaucoup, même si vous avez un peu insisté sur le fait que il n'écrit pas tellement, que les éditeurs s'impatientent. Bon, voilà, c'est ainsi. Je vais lire ce texte que je connais bien entendu, mais que j'ai complètement oublié. J'espère qu'il est intéressant. Mais oui, vous me demandez comment mon père et Jean Balde se sont rencontrés. Alors, d'abord, vous l'avez laissé entendre, sans le dire vraiment. Il faut quand même. Jean Balde, c'est une femme, n'est-ce pas ? Nous sommes bien d'accord. Elle s'appelle Jeanne Allemand. Et Jean Balde, c'est son nom de plume. Et elle commence à écrire au début du siècle dernier. Et c'est une habitude pour les femmes écrivains de prendre un nom masculin qui intervient surtout au XIXe siècle. Donc, pourquoi ? Ça, il faut demander aux féministes. En effet, elle choisit un pseudonyme masculin. Et il faut le préciser, parce que les gens qui ne connaissent pas Jean Balde, il y a encore quelqu'un hier soir qui me dit « il ». Mais non, « il », c'est une dame, Jean Balde. Alors, mon père l'a rencontré en 1924. Faire une petite situation chronologique. Mon père avait l'âge d'être mon grand-père. Il était né en 1891. Jean Balde était né en 1885. C'est-à-dire exactement la même année que Fonsa Mauriac. Et elle appartient à ce que, en effet, Michel Suffren, reprenant une formule venue de l'Amérique, « The Lost Generation », a appelé la génération perdue. C'est-à-dire tous ces écrivains qui sont nés plus ou moins en même temps que Fonsa Mauriac, en tout cas autour de 1885, un peu avant, un peu après. Jean Balde, c'est pile 1885, comme Mauriac. Et ces écrivains qui, quand il s'agissait d'hommes, et elle est dans cette troupe la seule femme, ces écrivains qui ont été fauchés, comme évidemment une grande partie des artistes, des intellectuels, des savants, des jeunes artistes, des jeunes savants, des jeunes intellectuels français, et puis des jeunes ouvriers aussi, bien sûr, par cette abominable tuerie qu'a été la guerre de 14. Donc, Jean Balde, c'est la génération de Mauriac qui a survécu parce qu'il n'était pas il n'avait pas la santé pour aller combattre. Et c'est la génération de Jean de la Ville qui est mort en novembre 14. On a parlé du centenaire de sa mort en novembre dernier. Et c'est la génération d'André Lafont, peut-être aurons-nous l'occasion d'évoquer la figure d'André Lafont, qui meurt en mars 1915. On pourra parler d'André Lafont en mars prochain. Et toute cette génération, Émile Despax, j'ai dit Jean de la Ville, oui, Jean de la Ville, bien sûr, toute cette génération est fauchée par la guerre. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La Survivante. Elle est la survivante. La survivante, bien sûr, à André Laffont, qui a tenu une place importante dans sa vie, la survivante à toute une génération fauchée par cette abominable hécatombe. Alors, mon père est né en 1891, il est plus jeune que la génération perdue, mais quand même pas tellement, et il rencontre Jean Balde, qui est encore 1924, ça fait combien ça
39 ans.
Ben voilà, elle a 39 ans, il la rencontre, alors il a écrit un texte qui s'appelle « Mon ami Jean Balde », et où il raconte cette rencontre, ça se passe à la bibliothèque municipale de Bordeaux, qui se trouve à ce moment-là place du Chapelet, c'est la bibliothèque Mably actuellement, et rencontre Jean Balde dans l'escalier. Et dans l'escalier de la bibliothèque, il y a les bas-reliefs de marbre, qui sont maintenant au musée d'Aquitaine, qui étaient les bas-reliefs de marbre de la statue de Louis XV, place de la Bourse, qui représentent la bataille de Fontenoy, qui sont des bas-reliefs extrêmement puissants sur le plan artistique et évidemment extrêmement guerriers. Et il décrit le visage lourd, assez viril et assez masculin, puissant comme trait, de Jean Balde, qui se détache sur ces bas-reliefs eux-mêmes, puissants, virils et guerriers. Et en même temps, ce visage est illuminé parce qu'il appelle des yeux, comment s'appelle des yeux andalous. Voilà. Donc, je crois qu'elle n'était pas très belle physiquement, mais elle avait un regard andalou absolument superbe. Ils se rencontrent comme ça, et puis ensuite, une amitié va se nouer, qui durera de 1924 à 1938, c'est-à-dire à la mort de Jean Balde. Et ils ont été extrêmement amis. Et puis alors, c'est un réseau. C'était pas les réseaux d'aujourd'hui, c'était pas Facebook, mais c'était un réseau d'amitié. Donc il y avait François Mauriac, et il y avait la femme de François Mauriac qui a été l'élève de Jean Balde au Coruello. Peut-être nous parlerons du Coruello. Et donc il y avait un réseau d'amitié très, très étroit et très chaleureux entre mon père, François Mauriac, cette romancière et beaucoup d'autres. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à la génération perdue de Michel Suffren? C'est que Michel Suffren, quand il publie ce livre, qui en effet a été réédité par le Festin, mais ce livre, c'est dans les...
C'est 66.
66. Et quand il publie ce livre, il va chercher des témoins. Et donc, pour ce qui concerne Jean Balde, il vient voir mon père. Moi, je me souviens de l'arrivée de Michel Suffren, un jeune homme à Codéran pour interroger mon père sur Jean Balde. D'accord. Voilà comment. Alors maintenant, alors, vous voulez que
voilà un petit voilà. passage qu'on ait un peu
un
comme
petit
ça.
Passage,
on aura en dans l'oreille le style plane pour voir si un style le style se transmet.
Bon, j'ai connu Jean Balde au lendemain de ses premiers succès littéraires, c'est-à-dire à l'époque où le prix Northcliffe, féminin Northcliffe en réalité, avait été attribué à La Vigne et la Maison. Notre rencontre, mon père raconte ce que je viens de dire, notre rencontre a eu lieu à la bibliothèque municipale de Bordeaux, devant le grand bas-relief provenant de la statue déboulonnée de Louis XV et représentant la bataille de Fontenoy. Sur ce fond marmoréen et guerrier, le visage un peu lourd, mais éclairé par mais je savais pas que vous alliez me faire dire ça, j'aurais pas dit, mais éclairé par d'admirables yeux andalous qui lui donnaient une expression si chaude et si douce, se détachait singulièrement. Jean Balde me remercia d'avoir loué un de ses romans et me fit cette confidence que j'ai notée parce qu'elle me parut importante. Vous avez parlé de mon amour de la vie intérieure, de mon goût des âmes, comme cela me touche. Non pas que j'ai droit à tant d'éloges, mais ce que je sens et voudrais traduire, c'est cet immense amour de la vie, et tout spécialement des êtres qui souffrent, qui cherchent, qui luttent, le regard levé, soulevé par l'éternel ferment de l'espérance. Par la suite, Jean Balme m'a raconté son enfance, sa jeunesse et ses débuts difficiles. Elle était née dans une de ces maisons de la place de la Bourse que Gabriel a dressée comme un royal décor entre le palais qui abrite la chambre de commerce et celui qui a recueilli le bureau des douanes. Au bord de la rade, vineuse et glorieuse, encore frémissante de voiles, quand les morutiers y faisaient irruption. Plus tard, ses parents s'installèrent dans la propriété du Cazin, à La Traîne, et c'est là que Jean Balde fut durement initié à la grande misère du vignoble quand la mévente succéda au phylloxéra. Cette vigne, disait-elle, moi aussi j'ai combattu pour elle. Dans le tonneau des Danaïdes, j'ai aveuglément jeté ma jeunesse. Elle me rappelait sans aigreur qu'étudiante à la fac des lettres, puis professeur au Courouello, il lui arrivait de faire à pied, par souci d'économie, le trajet matinal de La Traîne à Bordeaux. C'était le temps où le bon maître Fortuna Skrowski patronnait ses premiers essais littéraires, comme il encourageait ceux de Jean de la Ville de Miremont, de François Mauriac, d'André Lamandé et Martial Piéchaud. Peut-être aussi d'Olivier Hourcade et d'Émile Despax. Quel beau printemps préludant à un été dévastateur. Un jour, Fortuna Skrowski donna à l'Athénée. Fortuna Skrowski était professeur à la faculté des lettres, c'était un spécialiste de Montaigne. Et c'est lui qui a déchiffré, on prétend même qu'il s'est usé les yeux, a déchiffré le fameux manuscrit de Bordeaux où Montaigne a mis dans les marges un nombre assez considérable d'annotations, mais sous forme de pattes de mouche. Il faut en effet avoir de bons yeux pour les lire. Un jour, Fortuna Skrowski donna à l'Athénée une conférence sur André Lafont et Jean Balde, qui venaient de publier deux volumes de vers passés inaperçus, et cette conférence avait pour titre « Les étoiles qui se lèvent ». Il pleuvait ce jour-là, comme il pleut à Bordeaux. Mais pour André Lafont et Jean Balde, ce fut un jour radieux. Avant La vigne et la maison, Jean Balde avait déjà fait éditer Les liens et les ébauches. Mais le prix Northcliffe, qui lui valut l'audience du grand public, lui permit d'épanouir son talent dans une œuvre dense et savoureuse dont les Girondins devraient être fiers. La plupart des romans de Jean Balde, en effet, ont notre région pour cadre et pour sujet la peinture des mœurs locales. La Reine brûlante, c'est Soulac et la fin des terres. La Touffe de Guy, c'est le Médoc et ses châteaux. Reine d'Arbieux, c'est le Bazadé, sylvestre et bucolique. Le Goéland, c'est le bassin d'Arcachon. Jean Balde avait un faible pour le Goéland, peut-être parce que ce roman, traité par larges fresques marines, est d'un art plus mûr et plus vigoureux que les précédents. Mais aussi, m'écrivait-elle, parce que les jours que j'ai vécus là-bas avec les parqueurs, à dormir au fond de leur pinasse en attendant la marée, ou à regarder sous la lune le beau travail du filet que jette et retire les pêcheurs, qui me ramenaient au temps de l'Évangile, sont les meilleurs de ma vie. Les ouvrages où elle a mis le plus de son cœur sont sans doute l'histoire des Dames de la Miséricorde, parce que c'était un hommage rendu aux vertus charitables de sa race, la biographie de Jean-François Bladé, son oncle, un d'Artagnan de plume, parce que c'est un mausolée dressé à la gloire d'un conteur folkloriste gascon qu'elle avait rêvé de continuer à sa manière. Et d'ailleurs, Balde, son pseudonyme, c'est Bladé, c'est l'anagramme de Bladé. Et surtout, la maison au bord du fleuve, dont il est question ce soir, où elle a pieusement recueilli le butin sentimental de toute son existence.
On
s'arrête là.
Voilà. Donc c'était Jean-Marie Plane lisant Georges Plane. Voilà. Ce qui ne doit pas arriver souvent en public. Voilà. Alors, ce que souligne aussi Georges Plane, il a, en analysant l'œuvre de, enfin, et le personnage de Jean Balde, à la fois, il est admiratif de la romancière, hein, il reconnaît que de la biographe, qu'on connaît beaucoup moins bien, de la conférencière, de la et surtout, ce qui l'a touché, c'est la personnalité de cette femme un peu particulière. Et on sent, dans ce que dit Georges Plane, plus loin, qu'il y a une sorte de compassion pour cette femme qu'il juge un peu déclassée. C'est aussi un peu cela qu'elle est Jean Balde. Alors, Qui était cette Jeanne Allemand devenue Jeanne Balle? De quel milieu venait-elle? Et comment expliquer ce relatif déclassement dont parle votre père?
Elle vient d'un milieu extrêmement bourgeois, extrêmement représentatif de la bourgeoisie bordelaise, avec comme souvent le milieu bourgeois bordelais, des attaches. Sa grand-mère maternelle est une Olagré, c'est un nom basque, et des attaches un peu partout dans la région aquitaine. Et d'ailleurs, dans la maison au bord du fleuve, c'est naturellement, peut-être comme l'a suggéré l'éditeur, en choisissant pour la couverture un tableau d'Alfred Smith, c'est peut-être l'appartement de la place de la Bourse où elle a passé son enfance, mais la maison au bord du fleuve, c'est surtout le casin, la maison d'ailleurs où elle est morte, qui se trouvait sur la rive droite, c'est ce qu'on appelle la route du bord de l'eau, à la traîne. Mais la maison au bord du fleuve, c'est un texte qui est plein de références aux Bazadés, aux Médocs, et c'est une famille qui, avec les ramifications familiales, les oncles, les tantes, les cousins, a des maisons un peu partout. Ce qui fait qu'elle passe son enfance à se promener entre ces maisons du Bazadé, du Médoc, de la rive droite, et à rencontrer ses cousins, ses oncles, ses tantes, à en faire des portraits souvent extrêmement savoureux, très pittoresques. Elle a vraiment un don réel pour le portrait. On peut parler de son don.
On en parlera tout à l'heure, oui.
C'est une famille de la bonne bourgeoisie bordelaise. Et son père est à la fois viticulteur et négociant. Et puis, c'est une famille qui va être, la compassion dont vous parliez, la compassion de mon père, c'est une famille qui est ruinée par le phylloxéra, comme énormément de gens au début du siècle dernier. Ça a été un fléau. Et donc, la famille maternelle, les Olagré, ils ont une entreprise, ils font des capsules en fer pour les bouteilles. Elle raconte de façon très pittoresque l'atmosphère de cet entrepôt, de ces usines où on fabrique les capsules. Et tout ça ne marche pas. Donc à un certain moment, ce sont des gens qui n'ont plus d'argent et ils se replient. Alors vous avez parlé du père. Il se replie dans la maison de la Traîne, au Cazin. Elle va en effet, quelquefois, elle prend ce qu'on appelait le tramway de Cadillac, qui était un petit train qui allait, on le prenait à la gare de la Traîne et il vous conduisait dans le centre de Bordeaux. Et elle prend le tramway de Cadillac. Quand elle n'a pas l'argent, elle va à pied, ça fait 8 kilomètres. Donc mon père lui dit, évidemment, ça l'épatait beaucoup, là, qu'on puisse faire 8 kilomètres à pied. Mais elle était contente. Et son père, quand mon père à moi allait voir Jeanne Balle au Cazin, le père était enfermé dans une chambre. Il y restait 20 ans, je crois. Il ne sortait plus d'une espèce de claustration dans laquelle le malheur de sa condition l'avait enfermé et il ne voulait voir personne. Et mon père n'a jamais rencontré le père de Jeanne Balle, alors qu'elle avait une admiration éperdue. Il y a un très beau chapitre sur son père dans la maison au bord du fleuve. Mais c'était un homme, effectivement, qui a été brisé par l'échec au moins professionnel de son existence.
Elle
déclassée à cause de revers de fortune, tout simplement.
Mais de fait, elle va choisir finalement le milieu intellectuel pour tenter quelque chose qui serait presque une carrière littéraire, pour une femme, même à l'époque, était quelque chose d'assez compliqué. Et alors, elle a une carrière malgré tout un peu en demi-teinte. C'est-à-dire, curieusement, vous citiez tout à l'heure avec Mauriac, elle est exactement contemporaine de Mauriac. Oui. Et au moment où Mauriac, lui, commence son ascension, elle, finalement, elle fait un peu de surplace. Peut-être, c'est jamais... Alors, elle est montée à Paris, elle a tenté la vie parisienne.
Non, on ne peut pas dire tout à fait ça. Effectivement, elle fait des études littéraires à la faculté des lettres. Elle choisit de l'enseignement. Et elle est professeure dans l'institution bordelaise où elle a fait elle-même ses propres études, qui s'appelait Le Corovello. Ah, il se trouve, ça, ce sont des rapprochements.
Vous enseignâtes, vous aussi.
J'ai enseigné au Corovello. Et puis, mon ami Séverine Deluz, et puis mon ami Alain Ricard, nous sommes beaucoup à avoir enseigné au Corovello. C'était la fin de cette institution pour jeunes filles de la bourgeoisie bordelaise. C'était assez charmant. Donc, elle a été élève au Corovello, elle entre comme professeure au Corovello, et comme elle se lance dans la littérature, vous avez raison, David, elle se lance dans la littérature comme tout le monde à ce moment-là, c'est-à-dire comme Mauriac et comme tous les autres, en écrivant des poèmes. Un grand écrivain, au début du XXe siècle, c'est un poète. Et par-dessus le marché, il y a Francis Jam. Il y a Barrès qui, en effet, donne la bénédiction aux mains jointes de François Mauriac. Donc, un grand écrivain est un poète. Ils commencent tous par écrire des poèmes. Et les poèmes de Jean Bal, de Mausolée, puis il y en a, avant Mausolée, il y a un autre titre. C'est pas extraordinaire. Extraordinaire. Mais enfin, je ne suis pas sûr que les mains jointes, ce soit extraordinaire.
Non,
même si Barrès s'est incliné devant les mains jointes. Alors, elle commence comme poète. Et puis ensuite, elle va se mettre à écrire des romans. Et c'est pas... bien entendu que ça n'a rien à voir avec la carrière absolument fulgurante de François Mauriac. Mais c'est pas une carrière médiocre. Elle accumule les prix. Donc mon père parle du prix Féminin Northcliffe. Elle a le grand prix du roman de l'Académie française pour Reine d'Arbieux. Elle a d'autres prix. Ce sont quand même des livres qui sont lus. Et en effet, à un moment, son succès est assez net pour qu'elle se dise « je vais pouvoir aller vivre à Paris et je vais pouvoir aller vivre à Paris de ma plume ». Et elle s'installe à Paris, mais elle ne peut pas vivre de sa plume. Donc elle va devenir à Paris secrétaire d'un journaliste, écrivain qui s'appelle Jean-Jacques Brousson, qui a été le secrétaire d'Anatole France et qui est connu dans l'histoire de la littérature parce qu'il a écrit un livre sur Anatole France qui s'appelle « Anatole France en pantoufles ». C'est-à-dire les petits côtés d'un grand homme. Donc, elle travaille avec Jean-Jacques Brousson. C'est elle qui écrit un peu les livres de Brousson. Et alors, ce n'est pas une carrière obscure. Ce n'est pas une carrière, évidemment, éclatante comme celle de Mauriac. Mais c'est pas j'avais une amie qui parlait de ratésion. Ce n'est pas une ratésion. C'est une carrière sol et sombra, ombre et lumière. Mais qui en effet, ne lui rapporte pas suffisamment d'argent pour avoir un train de vie.
Oui, il n'empêchera pas de s'épuiser un peu s'épuiser au travail, quand même. Oui. C'est quelqu'un qui s'est véritablement épuisé.
C'est épuisé, c'est-à-dire qu'elle est obligée de chercher à côté des sources de revenus. Alors, elle fait énormément. Moi, j'ai toute sa correspondance avec mon père, où elle fait beaucoup de conférences pour l'Alliance française. Alors, elle va dans les pays du Nord, des pays de l'Est, elle va en Afrique du Sud, elle va en Afrique du Nord, partout où il y a des alliances françaises, pour parler de littérature et pour gagner un peu d'argent, mais elle dit qu'elle est épuisée.
Alors, vous en avez parlé tout à l'heure d'un personnage assez singulier des lettres françaises et bordelaises, bien entendu, qui est un peu le ressort plus ou moins secret ou caché, enfin assez mal caché, de la vie amoureuse, de la vie intellectuelle de Jean Bal, qui est André Lafont. Alors, le livre, on va en parler un peu tout à l'heure, mais le livre se présente comme une autobiographie, un livre de souvenirs, où elle ne parle quasiment pas d'André Lafont. Elle attend la fin pour évoquer ce dont vous nous parliez, qui est ce jour où à l'Athénée, Fortuna Trotsky a présenté ces deux figures. Est-ce que d'abord vous pensez que le titre « La maison pour du feu » n'est pas aussi un écho à cette fameuse « La maison sur la rive » d'André Lafont ? Une façon aussi comme ça de... Et est-ce qu'il n'y a pas chez Jean Bal cette figure un peu du martyr, cette sphère de veuve vierge qu'il a poursuit aussi un peu tout au long de sa vie, qui est... Elle était veuve finalement d'un homme qui ne l'avait sans doute jamais aimé. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Alors, il y a trois questions en une, n'est-ce pas ?
Je vous ferai la synthèse.
D'abord, est-ce que je pense que la maison au bord du fleuve est un écho au... dernier livre, c'est le dernier livre d'André Lafont, donc il meurt en 1915, 1915, et je crois que le livre La Maison sur la Rive paraît en 1914. Et bien sûr que, bien sûr, mais je crois que je l'ai écrit dans la, bien sûr que la Maison au bord du fleuve est un écho, le titre est un écho au titre de, d'André Lafont, La Maison sur la Rive. Alors là, nous sommes en 37, mais qui est paru en 1914. Ensuite, dans votre question, elle ne parle pas du tout d'André Lafont, juste à la fin. Alors, c'est très, très important qu'à la fin, dans La Maison au bord du fleuve, il y ait que le livre, qui est un livre de souvenirs, qui, ce sont les souvenirs de son enfance à elle. C'est-à-dire son enfance à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais également à ses propres souvenirs. Elle ajoute les souvenirs de sa mère, ce que sa mère lui a raconté sur ses souvenirs d'enfance. Elle parle des souvenirs de sa grand-mère, c'est-à-dire que il y a toute une filiation qui est assez passionnante, parce qu'on remonte dans l'histoire de Bordeaux, l'histoire de la Gironde, de l'Aquitaine, puisqu'il y a beaucoup de pages aussi sur le Pays basque. On remonte assez loin dans le 19e siècle. Peut-être on pourra en dire un mot, l'inauguration du monument des Girondins. Il y a des scènes très, très pittoresques. Et dans ce livre qui est en effet Souvenirs bordelais, c'est-à-dire les souvenirs non seulement de Jean Ball, mais les souvenirs d'une famille, d'une certaine façon. Ce sont les souvenirs d'une famille. Ce livre se termine sur cet épisode tellement singulier. Fortuna Strowski, le grand professeur à l'université, le spécialiste de Montaigne, qui décide de réunir deux jeunes poètes pour une conférence à l'Athénée. L'Athénée, à ce moment-là, c'était rue des Trois Conils. Et conférence à l'Athénée sur deux jeunes poètes bordelais, Jean Bald et André Lafont. Elle termine son livre là-dessus, sans évidemment évoquer du tout ce qui va la lier à André Lafont, en parlant simplement de la figure pâle d'André Lafont.
C'est très, très elliptique.
Très elliptique. La figure pâle d'André Lafont qui apparaît à l'Athénée à cette soirée probablement pluvieuse bordelaise. Alors, en effet, ils ont été mis en relation l'un avec l'autre par Fortuna Strowski, deux jeunes poètes bordelais, talentueux aux yeux du grand professeur d'université, et puis quelque chose s'est produit entre eux deux. C'est l'époque aussi où André Lafont rencontre Fonsa Mauriac, c'est l'époque où... partant pour Paris, bon, ça, il faudrait revenir, c'est une autre conférence, c'est André Lafont, on l'a déjà fait, vous l'avez rappelé, partant pour Paris, il va connaître ces Mauriac, Jean de la ville de Miremont, mais qu'est-ce qui s'est passé entre Jean Bald et André Lafont? Quelque chose qui relève, en tout cas de la part de Jean Bald, de l'illusion, elle s'est trompée, et puis, un certain nombre de commentateurs ensuite, et mon père au premier chef, se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ont cru, c'est un peu ce que vous avez suggéré, ils ont cru qu'il y avait eu un grand amour entre Jean Bald et André Lafont, et puis que cet amour avait été brisé par la guerre et par la mort d'André Lafont, et qu'elle était restée, en effet, comme une espèce de la survivante, comme une espèce de veuve, la veuve vierge, bon... Mais c'est pas ça. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et il est certain, en tout cas, que Lafont et Jean Bald ont connu une espèce d'amitié très profonde, de liens très, très spirituels, très étroits. Il est certain aussi que ce que dit mon père dans le portrait, c'est qu'André Lafont l'a trouvé laide et pas attirante. Et puis alors les biographes maintenant commencent à dire que peut-être il n'aimait pas tellement les femmes. Et puis le dernier biographe de Mauriac, Barré, alors lui il dit pas peut-être, il dit carrément il n'aimait pas du tout les femmes et évidemment il n'avait aucune envie d'épouser.
Et qu'il était même carrément agacé par l'insistance.
Parce que c'est terrible. Les femmes, femmes, vous les connaissez, David, elles sont terribles, des crampons.
Mais elles composent quasiment l'assemblée de cette.
Effectivement, il y a des lettres. À partir du moment où Lafont a mis fin à leur liaison, elles s'accrochent. Et je crois que c'est François Moria qui dit oh, il est hors de lui, la victime ose pleurer. Donc il y a eu une espèce de malentendu terrible. Terrible pour elle, ça c'est certain. En même temps, moi je ne suis pas du tout d'accord avec le. Certainement, quelque, bon, ça a été une vraie blessure pour Jean Bald. André Lafont, il est mort, donc on ne sait pas. Mais, une vraie blessure, mais ce qui me paraît assez important dans le cas de Jean Bald, c'est une chose sur quoi insiste Mauriac, insiste Georges Plane, tous les gens qui l'ont connu insistent là-dessus, c'est qu'elle est. Elle était gaie, elle aimait la vie, elle avait un amour extraordinaire de l'existence, un appétit de vivre. Et alors, il suffit de lire La Maison au bord du fleuve, il y a des passages mais extrêmement drôles, elle a une ironie.
C'est un livre à la fois nostalgique.
Il y a un peu de nostalgie.
Mais qui n'est pas animé ni par la rancœur, ni par
pas
une sorte de voilà. Elle est un peu
pas
réactionnaire, mais il y a quelque chose qui...
Mais elle n'est pas réactionnaire, elle regarde... Mais, enfin, vous avez écouté... Christine de Rivoire, hier soir, qui disait... Mais, alors, c'est vrai qu'elle a 93 ans, mais ça, elle le dit bien avant d'avoir 93 ans. Le passé m'intéresse. Et Jean Bal est à un moment de sa vie où le passé l'intéresse, elle se retourne. Et c'est parfaitement juste ce que vous dites. Elle se retourne vers ses souvenirs, vers son enfance. Il y a toujours un moment de la vie où on se tourne vers son enfance, toujours. Et puis alors vers l'enfance de sa mère, l'enfance de sa grand-mère, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais sans aucune espèce, il n'y a pas tellement de nostalgie. C'est plutôt un témoignage. Voilà, ce sont des choses qui se sont passées à un certain moment de mon histoire, et il se trouve que mon histoire rejoint un peu la grande histoire. Et quand elle parle de, je sais pas, le tsar à la traîne, là, c'est la visite de Nicolas II en France, c'est la grande histoire. Les échos de la visite du tsar à Paris à la traîne, c'est un chapitre absolument tordant, où toute la France entière est tsariste, qu'il y a les mouchoirs, les porte-monnaies, tout porte les armes des Romanov, les petites filles à la traîne sont déguisées avec petites russes, avec... Elle raconte ça d'une manière tordante, et ces souvenirs personnels rejoignent la grande histoire. Donc, ce n'est pas nostalgique. C'est plutôt souvenir bordelais, c'est un témoignage sur un certain moment de ce qui est notre histoire aussi. Alors, on est les héritiers de ça.
Justement, vous le dites, curieusement, ce n'est pas une vraie autobiographie, somme toute. C'est plutôt les souvenirs. Parce que, alors, elle montre les épisodes de l'enfance, elle montre un peu les influences, mais finalement pas tant que ça. Elle compile en quelque sorte des souvenirs. Mais. Comme vous le dites, elle ne fait pas du Julien Green, c'est-à-dire elle ne fait pas de manière pour dire les choses. Elle n'est pas dans le lamento à la Chateaubriand.
Non
ça.
Plus.
Il n'y a pas d'exploration intime. Comment vous vous expliquez en même temps pour quelqu'un pour qui la vie intérieure semblait aussi importante, au moment où tout d'un coup elle se livre, elle ne se livre pas à l'auscultation, complaisante ou pas d'ailleurs. Comment ça se fait qu'elle évite ce mouvement-là? Comment vous l'expliquez?
Parce que en effet, ce livre, il n'y a aucune auscultation, il n'y a aucune exploration intime. Et ce sont ses souvenirs, mais en effet, ses souvenirs, elle passe son temps à les mettre en perspective avec d'autres souvenirs, et avec, en effet, l'histoire d'un milieu, qui est le milieu bordelais, à un certain moment de l'histoire, qui est le début du XXe siècle, la fin du XIXe, et puis l'avant-guerre. Et parce que ce n'est pas son tempérament, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout tournée vers elle-même, elle n'est pas narcissique, elle s'intéresse aux autres. Non, je ne crois pas qu'elle ait du tout le goût de... ce que je disais, elle a le goût de la vie, c'est-à-dire le goût de la vie, ça vous porte vers l'extérieur. Si vous commencez, en effet, vous intéresser à ce qui se passe en vous-même, vous êtes absolument sûr d'être malheureux, ça c'est évident. Et elle n'a pas le goût du malheur du tout.
Malgré
ce que la vie lui a réservé.
Alors comment est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui fait, et encore aujourd'hui, parce que la question se pose quand même aujourd'hui, c'est un livre qui a plus de 70 ans, qu'est-ce qui fait le charme de Jean Bal encore? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore de l'intérêt à lire Jean Bal? Ou à part le fait que, bien entendu, que ça nous restitue une époque, quelque chose comme ça, mais où est-ce que, parce que moi je l'ai lu, avec, je l'avais jamais lu, hein, et je craignais quand même le côté un peu amidonné, un peu vieillot, et finalement c'est vrai qu'il y a une sorte de fraîcheur. Comment vous expliquez, et est-ce que vous pensez que ça a bien vieilli? Et qu'est-ce qui explique ce charme?
Et mon cher David, vous faites les questions et les réponses en même temps. C'est-à-dire que c'est pas du tout vieillot, c'est pas du tout à midonner, c'est qu'il y a une extraordinaire fraîcheur. Et qu'est-ce qui fait le charme ? Ben, c'est un écrivain. Qu'est-ce qui fait le charme ? C'est la langue, bien entendu. Cette langue extraordinairement peu marquée par l'époque. C'est-à-dire que la romancière est plus héritière du roman psychologique, du roman sociologique. Elle adorait le roman russe, donc le roman des tourments intimes. Elle a été très influencée, dit-elle, par le roman russe, très influencée aussi par Jane Austen, par les Anglais. Est-ce qu'il y a une littérature féminine ? Mon père prétend ça, moi je suis convaincu du contraire. Mais, donc, la romancière, c'est autre chose. La mémorialiste, c'est une espèce de langue, d'une légèreté, d'une fluidité, d'une grâce, drôle, pas grave, quelquefois à peine mélancolique.
Un peu mélancolique.
Qu'est-ce qui fait que le charme ? Le charme, c'est. Elle est écrivain, le charme, c'est la langue. Et vraiment, il est réel. C'est étonnant, je suis absolument certain. Alors, que l'éditeur. Quand il a lu ce texte, avant de se décider à le rééditer, a été absolument séduit par le charme.
Alors, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez nous lire, on parlait chacun, citer les passages qu'il préférait. On avait dit que vous pourriez nous lire peut-être un petit extrait du début. Donc, vous savez, quand elle parle des émigrants,
au début.
Pour faire goûter un peu, page 20, certains matins, pour qu'on goûte un peu de cette...
Oui, monsieur, je vais faire ce que vous dites.
Cette langue.
Et le livre s'ouvre en effet sur, ça s'appelle Place de la Bourse, le premier chapitre, puisque donc ses parents habitaient, on a habité Place de la Bourse, il y avait des appartements. Mes grands-parents maternels ont habité Place de la Bourse. Je n'arrive pas à savoir si c'est exactement le même appartement, mais on habitait Place de la Bourse. C'était vivant la Place de la Bourse. Il y avait un café. Ma mère me racontait des souvenirs où il y avait en compte le café et le chien du cafetier de la Place de la Bourse. C'était très vivant. Donc les Allemands habitaient Place de la Bourse. Et alors, elle était enfant et elle était totalement fascinée par la vie du port, par l'animation. Coloré, commercial du quai. Et alors, vous voulez que je lise quel passage ?
On avait parlé de certains matins, c'est page 20. Voilà, vous avez une petite...
Certains matins, à notre réveil, nous percevions la place couverte de femmes vêtues de robes d'indienne à fleurs. Comme un vol d'oiseaux migrateurs, elles s'abattaient, serrées les unes contre les autres, sur les bancs et sur les trottoirs. Elles avaient la tête couverte d'un mouchoir, de longues tresses d'ébène et la peau dorée. Grelottantes dans le brouillard d'automne, elles donnaient le sein à leurs marmots. Les émigrants, les émigrants ! Avidement, nous regardions ce campement d'exilés échoués sur leurs baluchons. Un Napolitain grattait sa guitare. Des enfants aux pieds nus quêtaient dans les caboulots. Les jours de mauvais temps, la floraison des robes multicolores traînant dans la crotte avait quelque chose de lugubre. Dans les grisailles de la pluie, on eût dit un parterre de tulipes. Tout à coup, un mot d'ordre courait. « On part !» Comme des chiens de berger, les hommes tournaient autour des pauvresses, ralliant la marmaille à leurs jupes. Sur le quai, couvert d'une épaisse boue café au lait, et parmi les voitures qui les bousculaient, nous les voyions s'éloigner d'un pas de reine. Leur robe de soleil semblait un mirage. Aussi soudainement que les nomades étaient venus, ils disparaissaient. Quelques paquebots en partance pour l'Amérique du Sud les engloutissaient dans son entrepont. La sirène gémissait, c'était fini. Leur départ laissait un grand vide et une sorte de regret poignant. La place, métamorphosée en coin d'Italie, recouvrait son visage de tous les jours. Ah, c'est très joli, c'est une espèce de... C'est vraiment un tableau. D'abord, c'est les Roms, quoi. Enfin, oui. Mais on ne les regarde pas avec cette admiration et cette tendresse aujourd'hui. Eh bien, Et il y a un autre passage un peu plus loin, mais on ne peut pas faire uniquement des lectures, sur alors, les marins, les prostituées, les tenancières, etc. L'animation extraordinaire des quais, ça fait penser au tableau d'André Lhote, à tous ces tableaux. Elle a un coup d'œil extraordinaire.
Alors vous le dites dans votre préface, vous dites que son grand talent, c'est les portraits.
Je crois qu'elle a un coup d'œil extraordinaire. Je crois qu'elle réussit très bien les paysages. Mais c'est un peu... C'est très bien et puis c'est un tout petit peu trop bien. Voilà. Je crois que j'ai dit, c'est prêt pour la dictée. Quoi.
Oui, ça, on a un peu ce sentiment-là.
Un peu ce sentiment-là.
Professeur du Corbeau.
Et alors, les portraits, il y a quelque chose que je pense que, c'est, que son intérêt pour l'âme humaine et fait que le portrait, elle réussit ça d'une façon extraordinaire. Et alors, elle arrive à donner une qualité, justement, d'humanité, même dans la moquerie, mais souvent dans l'admiration, pour tous ces portraits, que ce soit Camille Julian, Xavier Arnauzan, tous ces bordelais importants, Maître Peyrecave, le bâtonnier.
Le fameux bâtonnier.
Le fameux bâtonnier qui faisait pleurer les jurés, qui faisait sangloter les gendarmes et qui gagnait ses procès comme ça.
Oui, et puis dont le cercueil était suivi par une foule immense.
Ou alors, ce que je trouve plus touchant, ce n'est pas les portraits de personnalités bordelaises, c'est les portraits d'inconnus. Il y a des portraits de femmes, souvent d'ailleurs. Des portraits de femmes complètement inconnues, mais originales, pittoresques, et ces gens qui sont morts et oubliés, enterrés depuis très longtemps, mais elle les fait revivre, elle les sort de cette affreuse obscurité, de cet affreux oubli qui est celui à la fois de l'anonymat et de la mort.
Alors, il y a quand même quelque chose dans le livre, alors c'est pas de la réaction, vous le disiez, vous en parlez du fait que c'est une femme qui se penche sur le passé, mais il y a même, malgré tout, elle parle d'un monde qui change et qui lui déplaît quand même. Alors elle parle, elle est née place de la Bourse et elle raconte aussi cette ville qui change. Et on a le sentiment que, avec ça, elle n'est plus de son temps. Est-ce que c'est votre impression ? Comme si quelque chose l'a rattrapée.
Je crois qu'elle le dit très bien, ça, au début du livre, qu'elle veut fixer des moments de l'histoire, pas tellement les moments d'une histoire personnelle, justement, ouais. Ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, mais les moments d'histoire d'une ville, l'histoire d'une région qui est en train, en effet, de changer. Et tout ça va basculer dans autre chose. Et elle meurt en 1938, mais en effet, il va,
non, mais elle parle des quais qui sont défigurés.
Et alors, par exemple, ça, c'est, j'en parlais avant-hier ou hier, je ne sais plus, à quelqu'un qui était absolument épaté. Elle meurt en 1938. La maison au bord du fleuve paraît en 1937. C'est le moment où la municipalité bordelaise construit les hangars sur les quais. Et donc, elle est absolument... consternée par l'apparition de ces hangars qu'elle trouve monstrueux, ces blocs de béton qui s'écrasent sur la ville comme ça. Et elle dit même qu'on aurait pu faire des jardins, quelque chose de joli, et on a construit ces abominables hangars. Et voilà.
Et Alain Juppé est un lecteur de Jean Balz, finalement,
Je ne crois pas qu'il ait subi la moindre influence de Jean Balz.
Mais malgré tout, il lui rend justice.
C'est pas spécialement Alain Juppé, c'est le destin, c'est la vie, qui lui a rendu justice.
Alors, on le dit, le livre est quand même sous-titré Souvenirs bordelais, ce qui peut-être le limite un peu à notre région. Je ne sais pas si les Parisiens seraient très intéressés par ce livre. Mais on a le sentiment qu'elle cherche aussi, tout au long du livre, à définir ce qu'est un bordelais. Régulièrement, elle dit ça c'est bordelais, ça c'est girondin. Alors, quel est un peu le profil du bordelais tel qu'elle veut le représenter ? Cet esprit bordelais, est-ce que vous y croyez ? Je crois que vous y croyez, qu'il existe un esprit bordelais.
Je n'ai pas tellement envie de répondre à votre question.
Je vous avais prévenu, on a attendu une heure, mais il est arrivé.
Je voudrais que ce soit François Mauriac qui réponde.
Ah bon, écoutez.
C'est possible, ça. François Mauriac, en décembre 1937, peut-être que je vous ferai une réponse personnelle après ou un autre jour, mais voilà, c'est Mauriac qui répond à votre question. Il écrit dans Gringoire un somptueux, c'est du Mauriac quand il est somptueux, c'est somptueux, un somptueux article sur la maison au bord du fleuve. Il rend compte, n'est-ce pas, de l'apparition de ce livre. Et alors, il écrit ceci. « Ce livre jette aussi une vive lumière sur le secret de la formation d'un écrivain. Ce qui nous apparaît d'abord, c'est comment Jean Balde a composé son propre bouquet. Mais ce qu'elle nous livre vaut pour beaucoup d'autres. Ce recueil bordelais n'intéresse pas seulement les Bordelais. » Voilà ce que vous répond David Vincent, François Mauriac. « Ce recueil bordelais n'intéresse pas, pas seulement les Bordelais. Que Jean Balde en ait eu ou non le dessin, il se trouve que la maison au bord du fleuve nous découvre la nappe profonde où l'inspiration de tout un groupe d'écrivains a trouvé son aliment. J'ai dit, ça c'est au début de l'article, que les rues et les routes suivies par le Milord des parents, le Milord c'est la voiture à cheval, de Jean Balde coupe celle où j'ai roulé vers la même époque, meurtri par le dur strapontin de la Victoria familiale. Quand Jean Balde se rendait de La Traîne à Bazas, elle passait au bas de la terrasse de Mont-Malagar. Pas très loin du jardin de La Traîne où elle a grandi, un petit lycéen qui s'appelait Jacques Rivière passait de rêveuses vacances. Et c'est dans ce cimetière de ce nom qu'il repose depuis 15 ans. Un peu plus haut, à Blaye, un autre enfant s'appelait André Lafont. Celui-là aussi attend la résurrection dans cette terre qu'il a tant aimée. Je ne sais où allait Jean de la ville de Miremont durant les mois chauds. À Royan, je crois. Martial Piéchaud avait sa maison près de Cadillac. Tous, nous étions formés, dirigés, orientés par ce fleuve, par ses coteaux, par ses landes, par cette mer. Tous, nous étions les familiers de ce monde un peu comique, mais charmant. Il répond à votre question, hein. Des Chartrons, de la Rousselle, du Haut Commerce et du Palais. Si le pauvre Thibaudet, Albert Thibaudet, l'historien de la littérature, si le pauvre Thibaudet vivait encore, j'imagine qu'il aurait attaché beaucoup d'importance à ce livre de Jean Balde, qui est une source. Lui qui aimait à grouper les écrivains par région et par cru, il aurait trouvé dans les souvenirs de notre ami le meilleur guide pour explorer le terroir girondin. Il est admirable que ces traces de vignerons et de marchands aient produit ces quelques artistes dont le trait commun, moi mis à part, est le détachement, le désintéressement. J'aime beaucoup le moi mis à part parce que c'est complètement justifié. Alors, est-ce qu'il y a un esprit bordelais? En tout cas, il faut le chercher dans cette génération. Et il est certain que Jean Balde illustre une certaine forme d'esprit bordelais. Ça n'est pas celui, naturellement, que Mauriac a caricaturé dans Préséance et dans une partie
oui,
de...
Oui, c'est ça, on ne reconnaît pas la,
pas du tout.
La dureté mauriacienne.
Pas du tout. Mauriac avait un compte à régler avec... le milieu bordelais. Il y a des humiliations venues de l'enfance, des choses comme ça qui sont très difficiles à supporter. Il a réglé ses comptes. Elle n'avait pas de compte à régler.
Est-ce que ce n'est pas ce qui lui manque pour devenir, pour être dans l'étape supérieure de l'écrivain?
Elle n'avait pas de compte à régler. C'est peut-être ce qui manque à son talent. Parce qu'il est évident que l'animosité, le désir de prendre une revanche, ça booste le talent. Ça, il n'y a aucun doute.
La plume
est très très heureuse quand elle est soutenue par cette véhémence. C'est ce que ça n'existe pas chez Jean Balde.
Ouais. Alors on a parlé un peu de l'humour de Jean Balde. Curieusement, c'est vrai que son amour de la vie, son amour de son pays, se traduit aussi par un certain humour, alors qu'il n'est pas vachard, qui n'est jamais ni revanchard ni vachard, mais qui s'exerce un peu sur la modernité, sur les changements. Alors on a parlé tout à l'heure entre nous d'un passage sur les bicyclettes notamment, où ça nous paraît étrange tout d'un coup de la ferveur qui s'empare des Bordelais pour la bicyclette. On peut retrouver le passage peut-être,
je crois que c'est vous qui savez
page
où
129.
Il est.
Page 129.
C'est absolument vrai qu'il y a un côté, dans l'œil de Jean Balde, un côté extrêmement moqueur. Elle saisit le comique de certaines situations. Quand on inaugure, elle relève les répliques drôles. Quand on inaugure le monument aux Girondins, c'est en 1896, je crois, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Et la colonne des Girondins. C'est resté très longtemps, on attendait, puis enfin on adressait ce truc, et puis c'était entouré de palissades, tout le monde se demandait ce qui allait surgir. Bon. Alors, les Bordelais, c'est pas commencé aujourd'hui, je parle à un public de Bordeaux, les Bordelais de l'époque trouvent ça abominable, quand ça surgit des échafaudages, on trouve ça horrible. Mon père trouvait ça horrible. Le monument aux Girondins. Ensuite, les Bordelais se demandent où sont les Girondins.
On se le demande encore.
On se le demande encore. Où sont les Girondins? Et là, il y a ces nymphes que Chaban a ramenées. C'est qu'ils sont extrêmement généreux. Il y a des hommes, mais enfin, il y a des femmes très généreuses, avec des seins volumineux. Et on demande à un petit garçon comment il a trouvé ça. Il dit « Je n'ai vu que des nourrices ». Donc, elle repère toutes les. Je n'ai vu que. Elle repère tout ce. Elle a un esprit très, très moqueur. Alors, mais le passage sur les bicyclettes, je me souviens.
C'est comme on a l'impression qu'elle-même a.
Mais lisez-le, c'est rendu, David.
Je vais faire un peu de lecture.
Voilà, alors. Mais lisez, servez à quelque chose.
Ah, c'est pas la gentillesse de Jean Bal. Hein. Alors. Alors, c'est drôle parce que moi, je trouve que ça a extrêmement bien vieilli. Autrefois, l'ambition d'un petit garçon était d'avoir une montre en or et des petites filles entassaient pendant plusieurs années leurs économies dans une tirelire pour acheter une paire de boucles d'oreilles. Aujourd'hui, les uns et les autres ne veulent que des bicyclettes. Les parents en achètent pour leurs enfants et, ce qu'il y a de plus grave, pour eux-mêmes. Toutes les ressources extraordinaires dont une famille peut disposer prennent la même direction. Une jeune fille qui croyait avoir des dispositions exceptionnelles pour la musique renonce tout à coup au piano à queue ardemment convoité pendant plusieurs années pour supplier son père de lui donner en échange une bicyclette. Cette requête est accueillie avec d'autant plus d'empressement qu'une bicyclette a, sur un piano, la double supériorité de coûter moins cher et de ne pas faire autant de bruit. Aussi, les fabricants de pianos prétendent-ils que cette année, le chiffre d'affaires aurait subi une réduction de 50% sur le marché intérieur des États-Unis. L'industrie qui a le plus souffert est la fabrication des voitures, des harnais, des selles et des brides. Les manèges où l'on apprenait à monter à cheval se transforment en vélodrome. Voilà. Il y a quand même aussi un regard très, très... très amusé aussi sur ce monde qui est en train de se commercialiser. Ça paraît étonnant dans la bouche de quelqu'un des années 30 de nous parler du chiffre d'affaires et du marketing américain et de ce qu'on entend toujours les commerçants à la télé en train de dire notre chiffre d'affaires s'effondre à cause de ci ou de ça. Il y a déjà cette espèce de préscience du monde qui est en train de changer.
Il y a une curiosité pour bien sûr qu'elle est attachée au monde d'hier, au monde d'avant, mais il y a une curiosité pour ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, c'est ça. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme fraîcheur. C'est l'extrême fraîcheur de son regard sur un monde qui change. Bon, évidemment, les hangars, ça la désole, mais elle est très amusée par ça. Et puis, alors, en même temps, ça permet de... Évidemment, c'est vrai que la bicyclette...
Non, mais ça nous pousse dans un monde qui donne...
que ça fait partie de nos mœurs depuis le Moyen-Âge. Non, c'était... Elle a vu arriver ça.
Alors, l'heure tourne. Je vais juste terminer par une chose, qui est que, somme toute, si aussi ce livre vous touche, peut-être encore...
Oui, bien sûr.
C'est parce que... Alors, vous le dites dans la préface, et c'est une très jolie manière de le faire, que l'histoire qu'elle raconte, cette histoire, c'est son histoire, et vous dites... C'est un court paragraphe. Cette histoire, c'est mon histoire. Voilà. Comment on peut retrouver son histoire dans un écrivain qui est mort avant même sa naissance? Et comment, qu'est-ce qui réveille chez vous du travail de la mémoire?
Bon, cette histoire est mon histoire. Effectivement, j'ai écrit ça. Eh bien, d'abord, vous l'avez dit, David, à cause de l'amitié avec mon père. Mmh. C'est-à-dire que depuis mon berceau, j'entends parler de Jean Balde. Et dans je crois que le texte, la préface commence comme ça. Dans le bureau de mon père, il y avait énormément. C'était un bureau très couvert de tapissé de livres, très impressionnant. Les visiteurs étaient très impressionnés. Il y avait énormément de portraits. Et là, il y avait des il y avait un portrait du maréchal Lyoté, il y avait un portrait du pape Pie XII et puis du pape d'avant, il y avait un portrait de René Benjamin, avec qui il était très ami, il y avait des portraits du duc de Guise, du comte de Paris, parce qu'il était monarchiste. Et il y avait ce portrait de femme, ce profil très, très beau, avec cette grande écriture dans un coin, la dédicace. Donc, j'ai l'impression, en effet, de vivre avec Jean Balde depuis mon enfance. Et puis, mon père parlait tout le temps de Jean Balde. Il voulait que je travaille. Quand il s'est agi à la faculté de faire un mémoire de maîtrise, il voulait que ce soit sur Jean Bal. Moi, je n'avais pas du tout envie de parler de Jean Bal.
C'était sur quoi, votre
j'ai parlé de Julien Green. Je préférais D'accord. beaucoup travailler sur Julien Green que sur Jean Bal. Et donc, cette histoire est mon histoire, parce que les gens dont elle parle dans ce livre...
C'est là que je voulais en venir.
Oui, bien sûr, j'ai compris. Ben, il se trouve que on n'a pas évoqué ça. Elle est au Cazin, dans cette maison, la maison au bord du fleuve, dans cette maison sur la rive droite. Et alors là, il y a toute une petite société, la société du Bordelot, qui surtout pendant les vacances. Donc les Bordelais ont des maisons là. Certaines sont absolument ravissantes. Il y a une des plus jolies chartreuses de la Gironde qui s'appelle Valrose, qui est là. Et toute cette petite société se retrouve pendant les vacances, et alors on fait des fêtes, on se reçoit bien sûr, on dîne les uns et les autres, mais il n'y a pas de télévision, hein. Pas de télévision à cette époque-là. Alors comment est-ce qu'on se distrait, notamment en montant des spectacles,
des revues,
voilà, des revues où les enfants, les grandes personnes, mais tout le monde joue. Alors on interprète des choses classiques ou on interprète des choses écrites par la petite société du bord de l'eau. Et alors, à la traîne, c'est un peu bricolé. Elle parle de la Gorse, qui se trouve à Langoiran. Et là, c'est mon arrière-grand-mère. C'est les Conils de Bessac, c'est mon arrière-grand-mère. Moi, j'ai entendu parler de ça toute mon enfance. Des spectacles que l'on montait à la Gorse. Toutes les filles du village cousaient les costumes. C'est Maurice Lanoir qui écrivait des textes. J'ai des photos de ma grand-mère, la tête coupée, comme ça, pour un spectacle. On la tient, je ne sais pas si elle fait une femme de barbe bleue. Et c'était très, très travaillé. C'était l'acmé de la saison des vacances, ces revues, ces spectacles. Et alors, effectivement, tous les noms, les Régis, les Lanoir, les Bessac, et tout ça, c'est ma famille. Alors, en effet, oui, cette histoire est mon histoire.
Et alors,
on m'a raconté dans mon enfance, moi, je suis arrivé trop tard, mais je n'ai pas assisté à tout ça, mais ça fait partie du légendaire familial.
Et alors, est-ce que ces familles bordelaises, vous avez le sentiment qu'elles existent toujours? Est-ce qu'il y a toujours ça? Et est-ce qu'il manque pas justement quelqu'un pour les raconter, comme Jean Bal a su le faire? Pourquoi plus personne ne raconte ça, cette bourgeoisie de province? Est-ce que c'est fini? Vous pensez que c'est fini?
Je pense que je vois venir. Oui, bien sûr, c'est fini. Bien sûr que c'est fini. Je ne vois rien d'équivalent aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait quelqu'un pour raconter les vestiges,
les soubresauts de
cette... Je ne sais pas, à qui pensez-vous?
Non, personne. Bon, on va terminer là. S'il fallait rééditer d'autres Jean Bal, lesquels encourageriez-vous un éditeur courageux à faire? Parce qu'on a senti dans ce que vous disiez qu'il y en avait des plus ou moins intéressants, certains avaient quand même assez mal vieilli.
Je trouve qu'il y a des romans qui ont mal vieilli, en effet. J'aime bien la Maison Barbusée qui se passe, qui est assez, alors qui est très noire. Hein. La Maison Barbusée, ça se passe en Médoc, c'est très très, c'est un roman assez terrible. J'aime beaucoup La Vigne et la Maison, qui est un roman dont le titre est assez proche de celui-là, mais La Vigne et la Maison, qui est un roman qui se passe dans le milieu des négociants bordelais, des négociants en vin. Qui se passe dans les milieux des Chartons, tout simplement, et qui est une espèce de contrepoint à Préséance de Mauriac. C'est-à-dire, c'est le même milieu, mais décrit sans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, évidemment, sans aigreur, sans revanche à prendre, sans acrimonie, avec un œil assez critique, assez caustique même par moments, mais sans la violence de Préséance. Et puis j'aime beaucoup le Goéland. Là, c'est une espèce de féerie. Elle est allée sur le bassin d'Arcachon. C'est une femme Mauriac le dit dans l'article, que c'est une des choses qu'il admire le plus. C'est-à-dire que le dédain pour le confort de l'existence, le dédain pour la facilité, l'aisance avec laquelle on accepte la vie rude et même on la recherche. Il est très étonné de ça, Mauriac, parce que en effet, c'est pas exactement sa nature. Et donc Jean Balde, mais dans mon ami Jean Balde, le texte de mon père, il décrit le casin. Cette maison, mais j'assure que ce n'était pas Versailles, c'était un inconfort absolu, c'était une ruine, elle vivait dans une ruine, et les papiers au mur se décollaient, les rideaux tombaient, les gravures étaient piquées, les meubles étaient mangés par les vers, ça n'avait aucune importance, ça ne compte pas, ça. Le confort ne comptait pas pour elle. Et alors, quand elle préparait ses livres, elle allait enquêter. Et donc, quand elle prépare le Goéland, elle va partager la vie des Parker sur le bassin d'Arcachon. Elle va à Arès, s'installe à Arès, et elle monte sur l'Épinasse, et elle va la nuit relever les Parcs. Et elle est habillée comme eux. Et donc, elle partage cette vie qui est quand même une vie rude. Eh bien, ça lui permet ensuite de nourrir son roman de cette connaissance très proche et évidemment parfaitement exact de la vie des travailleurs de la mer en l'occurrence. Donc j'aime beaucoup le Goéland aussi.
D'accord. Donc
peut-être
que l'éditeur.
Faudrait qu'il nous entende.
Réjoui par le succès, parce que c'est vrai que le livre Ensemble rencontre un très très beau succès à Bordeaux. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez.
Je trouve que c'est bien ce succès, ça me fait plaisir. Oui. Ça ferait plaisir à Jean Balde, ça ferait plaisir à mon père.
Eh bien, il me reste à remercier Jean-Marie de s'être livré à cet exercice en le remerciant.
C'est moi qui vous remercie, David. Vous avez été parfait.